Vous savez, quand il y a un lien toujours organique comme ça là, entre les mystères qui font les solennités, quoi, les sommets de Dieu. Alors, la transfiguration, pourquoi est-ce que la transfiguration se fait le 6 août? Parce que le 6 août, c'est 40 jours avant l'exaltation de la croix glorieuse. C'est pour ça qu'il y a quelque chose, les 40 jours. Il y a la sortie d'Égypte qui nous prépare pendant ces 40 ans de parcours d'avoir la force d'aller jusqu'à la croix glorieuse. Un petit peu comme la fête par exemple de la présentation de Jésus, celle de février. Parce que c'est 8 jours après Noël. Parce que ça, c'est organique. C'est comme des choses beaucoup plus évidentes, comme le 8 décembre. C'est 9 mois avant la naissance de Marie, évidemment. C'est comme le 25 mars. L'incarnation, c'est évidemment 9 mois avant Noël. Voilà, et tout ça est fait avec beaucoup de nombre et mesure. Et la fête qui s'épanouit comme ça, au bout de cette grande solennité de la transfiguration qui aboutit au fond au Sanaraba, tombe le jour où on trouve les forces les plus profondes dans la création et dans la présence, dans les profondeurs de Dieu, de la venue du Fils de l'homme venant sur les nids du ciel. C'est donc les fêtes de la croix glorieuse correspondent bien sûr aux Rosh Hashanah, qui sont elles-mêmes lors de l'apparition de l'ange Gabriel au papa Jean-Baptiste, préside à la conception de Jean le Baptiseur. Et on sait très bien tout ça, les fêtes de Jean le Baptiseur, elles aussi, elles correspondent bien sûr de la conception à la fête de sa nativité. Tout ça c'est très organique, on passe de l'un à l'autre. Et au cœur de tout ça, on voit que la transfiguration n'est pas un aboutissement. La transfiguration est plus un principe. C'est une révélation sur la création, sur la vérité de ce que nous sommes. S'il n'y avait pas eu le péché originel, cet état de transfiguration-là, qu'on voit décrire de cette manière-là, nous aurait été normal. C'est-à-dire qu'avec un maximum de charité, de ferveur, dans la grâce originelle, dans la grâce sanctifiante, l'homme était maître de la lumière, resplendissement de lumière. Visage ressemblant à celui de Dieu, visiblement et invisiblement. Responsabilité aurait eu ses droits de nature, de sainteté et de grâce dans l'image ressemblance de Dieu. Et si nous sommes si l'homme, parce que nous sommes, n'a pas cette qualité si immédiate, hein, apparemment. Mais c'est à cause uniquement de... Ce n'est pas un défaut de la nature humaine. cette conséquence de nos péchés. C'est faute. Il y a quelque chose en nous qui n'en veut pas de Dieu. Et c'est à cause de ça que... Et c'est pas normal, ça. Le péché n'est pas normal. On s'est tellement habitué à quelque chose de dire que... Voilà, ben on est, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on soit pas avec les propriétés de notre nature humaine normale. C'est ça qui n'est pas normal. Le péché n'est pas du tout une chose normale. Et puis en plus c'est fatigant le péché. Et puis ça n'a aucun intérêt. Et puis c'est lancé. C'est stupide. Et idiota. Falsificante. Oh, est-ce qu'on référence des... Ah oui, c'est ça, c'est l'homme qui est stupide qui dit que Dieu n'existe pas. Incipience. Dixit in cordes honanes deus. Celui qui dit que Dieu n'existe pas. Celui qui préfère que Dieu n'existe pas à travers lui dans l'indivisibilité devient incipience. Insipide. C'est pas mangeable. Hein. Un homme, un aide, un enfant, une femme, qui sont pas normaux. Il n'y a rien à déguster là-dedans. C'est insipide, incipiente. Dixit in corde, voilà ce que dit le psaume. C'est pas normal. Pour retrouver quand même son état de nature, pour ça que nous aimons bien dire souvent, il faut commencer par accepter ce que nous sommes. C'est le début, c'est la transfiguration. C'est la base de départ, c'est le béaba. Et pas gesticuler toutes les 5 secondes. Pendant l'oraison, tu vois, c'est pas normal. Gesticule. C'est extraordinaire. Tu vas dans un carmel, il y a quelqu'un qui fait oraison au milieu des carmélites, tu vois. Alors tu fais passer la bande à haute vitesse, tu vois. Tu vois pendant une heure le carmélite. Pendant ce temps, il y en a un qui gesticule. Et ça. Plus besoin d'acheter de ventilateur. Falsificateur agité par le vent de ses propres pensées. C'est effrayant. Ça fait peur. Et voilà, tandis que quand Dieu voit l'homme à son image, c'est le 6 août, hein, c'est le 6e jour. Il est présenté devant le trône de Dieu pour avoir toute domination, toute lumière, toute ressemblance, toute autorité, toute grâce. C'est impensable pour Dieu de créer un homme sans la grâce. C'est impensable. Dieu ne peut pas concevoir, et on existe pourtant, sans la grâce. Son enfant sans la grâce. Ça, c'est le premier point, oui, c'est ça. C'est pour ça que la transfiguration, vous savez, c'est le 444e verset du Nouveau Testament. L'homme est créé, vous voyez, 444, vous comprenez, c'est la création, quoi, hein, dans les 3 dimensions de l'homme. Est créé avec toutes les dimensions de la création, c'est le prêtre, c'est le récapitulateur, le diffuseur de Dieu dans la création, de la création en Dieu, c'est le tabernacle de l'indivisibilité de l'incréé du créé. C'est ça, un être humain, ce que je suis. Et on a n'accepte pas tellement ce que nous sommes, c'est vrai. On est... C'est là qu'on voit que ça, c'est pas un petit péché, par exemple, le moine pourrait prendre les 132 péchés les uns pour les autres dans la lumière de ça, de ce qu'on est. La pusillanimité. Celui qui pusillanimité s'attache à des trucs sans intérêt. Pusillanimité. Oh là là. Mais c'est s'accroche à des branches idiotes. Il va trouver sa sécurité dans la peuple psychologique. Il va chercher dans les cellules de crise. La pusillanimité, c'est bien pire que la bêtise. C'est effrayant. Et puis en plus, c'est lourd à porter. Des êtres humains qui ne sont pas humains. C'est invivable. L'homme est fait pour vivre dans la communion, l'adaptation immédiate à ce qu'il y a, à ce qu'il y a dans la mort, la lumière d'un autre que lui. Il n'y a jamais de choses qui grincent entre nous. C'est impossible. Sauf si on est forcené, quoi. L'égoïsme. C'est pour ça que la situation la situation humaine, lorsqu'elle n'est pas dans le péché, c'est une situation vraiment infernale, je vais le dire. C'est vraiment diabolique, c'est pas normal, c'est le début, la transfiguration, c'est le commencement, c'est le principe, c'est pas la fin. Et il y a beaucoup de... Moi j'ai entendu souvent des sermons sur le lit, tout ça, voilà, ça nous montre bien, la transfiguration, l'espérance, voilà ce qui nous attend. C'est exactement le contraire. C'est le point de départ, c'est pas le point d'arrivée. C'est le point de départ. C'est ça le mystère de la foi. La foi, c'est dire il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Et on traverse la mer Rouge, c'est le premier jour des 40 de la traversée du désert. Hein. Et le point d'aboutissement, c'est tout à fait autre chose. Dans le premier jour, je suis encore sur la terre d'Égypte, tandis que quand je suis à la fin, je suis à la terre promise. Et il y a une différence quand même de taille entre le ciel et la terre. Et c'est extraordinaire de voir que bon, même la liturgie montre ça, c'est pour ça que je vous ai fait remarquer, il y a 40 jours. Qui sépare comme ça. Le mystère de la croix glorieuse, puis. C'est vrai que, bon, il faut avoir la. Il faut retrouver toutes nos forces natives pour pouvoir reprendre et courir comme ça, descendre de la montagne et aller jusqu'au fond de l'épreuve, de la purification, jusqu'au fond même de la mort, qui est la croix glorieuse, justement, et glorieusement. Et donc la transfiguration. Jésus montre que quand même, lui, il est normal comme être humain. Que Marie aussi, immaculée, est normale. Il y a un lien très très fort hein, entre l'Immaculée, Marie, et Jésus pour la fête de la Transfiguration. Hein, puisque la Transfiguration, c'est simplement un état, j'allais dire, de la nature humaine qui appartient de droit comme propriété à la sponsalité. Dans le paradis, dans la main créatrice de Dieu, ce qu'on peut d'ailleurs retrouver dans le sacrement de mariage, sauf si on n'a rien compris au sacrement de mariage, on peut très très bien retrouver au-delà de l'unité des deux, entre l'homme et la femme, pour savourer ce qui est au-delà, et qui n'est pas atteint par les séquelles du péché originel. Et là, effectivement, comme l'a expliqué le Saint-Père, dans l'au-delà de l'unité des deux, il y a quelque chose de biologique, on dirait aujourd'hui staminal. C'est pas beau comme mot, c'est dommage. Il faudrait trouver des cellules spontanées. C'est plus joli, mais je sais pas. Il faudrait trouver. Ouais. Même tachyonique, quelque chose qui ne va pas dans tachyonique, c'est trop scientifique. Mais il y a quelque chose d'humain, il y a quelque chose d'amande, d'humain, il y a quelque chose de chair et de sang. Il y a une indivisibilité humaine, il y a une immaculation. Il y a une immaculation dans l'au-delà de l'unité spontanée. Il y a une immaculée. Et ce n'est pas un au-delà en dehors, c'est un au-delà qui transfigure de l'intérieur. Donc c'est un au-delà tout intérieur qui resplendit. Et c'est vrai que si l'homme et la femme, nous sommes les récepteurs un petit peu quand même des séquelles du péché originel, malgré qu'on puisse aller jusqu'au mariage spirituel dans la grâce sanctifiante, malgré ça, il reste toujours à la séquelle, mais on peut se perdre. Hein. Chacun étant dans le mariage spirituel de la grâce sanctifiante, se perdre complètement et voir apparaître de l'intérieur ce paradis originel, indépendant des séquelles du péché originel, qui est immaculé. C'est immaculé. Qui est transfigurant, qui est force, qui est une force, qui a toute autorité, quoi, qui est le royaume, qui est le règne de l'homme sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Et ça, c'est une propriété, comme dit saint Thomas d'Aquin, du corps humain. Du corps unifié. Une propriété du corps, c'est une loi naturelle du corps. D'ailleurs, on sait très bien. À l'époque de Jésus, c'était pas un mystère, ça. Nous, on s'est tellement dégénéré avec Freud et tout ça, et cette idéologie de l'homme, on ne se rend pas compte à quel point on est dégénéré. C'était quand même. Et puis, on a une vision des Juifs avec les pharisiens. Qu'est-ce qu'ils étaient tarés, ces pharisiens? Ils ne comprenaient pas, mais pourquoi? C'est toi qui comprends pas, justement, parce que les pharisiens, c'était pas des Kabbalah et Talmud, les Pérouchim. On n'arrive pas à leur cheville. Hein. Du point de vue de la vie intérieure, la vie messianique. Quand Nathanaël voit pour la première fois Jésus lui rappelle que, à sa dernière transfiguration, la transfiguration de Nathanaël, être sous le figuier, ça veut dire être dans un état de transfiguration visible par les autres. C'est une expression biblique. Être dans la transfiguration, là, Nathanaël était transfiguré puisqu'il était sous le figuier, il communiquait la surabondance du Messie qu'il contemplait. Et il communiquait la surabondance de la présence messianique par la doctrine qui se donnait de la bouche du Messie à travers lui. C'était ça. Ça s'appelle l'expression, c'était courant, je veux dire, tu ne transmettais pas la Torah. Tu n'avais pas le droit de transmettre la Torah comme on transmet aujourd'hui le Coran, par exemple. Tu répètes par cœur, tu répètes par cœur, tu répètes par cœur. Tu vis rien, c'était exactement le contraire, les juifs, tu n'as pas le droit de communiquer quelque chose qui n'est pas la surabondance lumineuse, vivante, de grâce messianique de ta contemplation actuelle. C'était strictement interdit. Donc il fallait quand même. Et c'était Nathanaël n'était pas spécialement supérieur à Osot, sauf qu'il avait été bon, il avait. C'était. Ah, Jacques-Marie Talmud, c'est pareil. Simeon Anachi, tu crois que c'était un imbécile? C'était pas un imbécile. Il y a tout ça, c'était des gens extraordinaires. C'était même des gens qui n'ont pas accepté Jésus. Hein. Même des gens qui n'ont pas accepté Jésus. Comme Yonatan Ben Zakkai, Yohanan Ben Uziel. Tout ça, c'était des gens qui étaient très. Il y a un passage que certains n'ont pas pu faire. Et c'était pas juste un ou deux, quoi. Et c'était un peu plus sain. C'était des gens normaux. C'est pas parce que nous, on est des bécasses qu'on doit croire que c'était des bécasses. C'est cette rampant que nous sommes devenus. C'est vrai, il y a quelque chose de très impressionnant, je trouve, que plus tu deviens débile, plus tu penses que les autres sont débiles aussi. Alors qu'objectivement, c'était pas comme ça. Donc pour les Juifs, pour un Yehudi, bon, la transfiguration comme ça, qui rayonne de la visage de Moïse, par exemple, n'est pas une chose extraordinaire. Tous les jours, ils le voyaient. Tous les jours. Et à un moment donné, ils se sont dit, bon, ils sont allés à 70. Et bien, les 70, ils étaient transfigurés comme lui, pareil. Pareil. La montagne elle-même se transfigurait. Ils ont vu ça. Et c'était tous les jours qu'ils voyaient ça. Ils le voyaient tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Pendant 40 ans. Et évidemment, qu'à trouver l'enfant, leur moitié responsable, à l'intérieur de la tente. C'était quand même assez extraordinaire tout de même, ces 40 ans. Ces 40 ans entre la transfiguration et la transverbération marque justement ce qui se passe à partir du mystère de la transfiguration. C'est traversée du désert. Et comme cette traversée du désert ne peut se faire que dans une nature humaine, disons normale, elle se fait dans le désert de Marie. Et le mystère de la transfiguration, on le voit bien, ouais, c'est 444e verset de le Nouveau Testament, mais si vous prenez l'évangile de Saint-Luc, c'est le 555e verset. Vous saviez, frère Luc, la transfiguration. Donc c'est Marie, donc c'est lié à Marie. De toute façon, le resplendissement, comme ça, de l'agilité, de la subtilité, quoi, de la luminosité du corps humain, lorsqu'il est perdu dans le de l'unité des deux, de la mort et de la liberté du temps et de l'échange de l'accueil du don, voilà, il resplendit, c'est normal. C'est pas toi qui resplendis, c'est pas elle qui resplendit. C'est l'humanité intégrale. L'échange de l'accueil du don produit la nature humaine, ni homme ni femme, l'unité sponsale. Et ça, c'est une expérience quotidienne de l'être humain qui est marié dans sa couronne de mariage. C'est pas du tout un mystère, c'est pas du tout loin du tout. Il y a des gens qui se marient, qui n'ont même jamais entendu parler de ça. Et ils se marient, hein. Et ils n'ont jamais entendu parler de ça. Tu leur dis, c'est vrai. Ils pensent que c'est un dessin animé, quoi. Et c'est ce qu'explique le pape, le Saint-Père. Il dit, voilà, moi je me rappelle, tu vois, le pape, ta première fois, c'était quand ça devait être la première fois que j'ai vu le pape Jean-Paul II. Bon, il faisait oraison, et dans la signification sponsale de son corps,
Voilà, l'humain, quand il sortait, il était transfiguré. Tu voyais la lumière, tu resplendissais. C'était pas. Et puis, quand ils approchaient toi pour donner le chapelet, tu rentrais dans une nuée de lumière. Tu t'en rendais compte sur le moment, si tu veux, mais après coup aussi, tu t'en rends compte. C'est pas parce qu'il était pape, c'est parce qu'il savait ce que c'était que la responsabilité. C'est pas qu'il savait, c'est pas une question de connaissance, c'est une question d'expérience. Je dois être un homme sur la terre. Dieu s'adresse à l'homme, il ne s'adresse pas à quelqu'un qui sait, qui reste et qui veut rester rampant, comme le serpent. Dresser dans la sagesse, aller dans l'amour, retrouver les forces natives du Créateur en moi et de moi dans le Créateur. C'est le principe, il faut que j'accepte ce que je suis et que je redevienne. Il faut accepter ce que nous sommes. C'est pas très compliqué parce qu'à force de regarder une erreur, on finit par devenir cette erreur. Mais si on contemple ce qu'on est, si nous contemplons la vérité de ce que nous sommes, nous finissons heureusement par redevenir nous-mêmes par la main de Dieu. Mais si on contemple notre nature humaine, ce que nous sommes, dans le miroir du dragon, c'est pas très 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 très, très savoureux à manger, ça. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, c'est impossible, nous ne pouvons pas vivre dans la contemplation du dragon à cette tête, c'est-à-dire dans un monde qui ne se regarde qu'à travers l'image de Satan. Le seul miroir, Freud, Sartre, Hegel, Jung, Huxley, Gratzé, Nietzsche. C'est tellement. Mais c'est notre environnement normal. Ta fille te dit, écoute, lâche-moi les baskets, hein, je suis libre. Ça, c'est une idéologie athée. C'est une des sept têtes du dragon. Ce sont les incarnations de Lucifer maintenant. Ils ont réussi, hein. Bon, ça c'est. Il a fallu 3-4 générations. Il a fallu 1-2 générations de stupidité, 1-2 générations, la 3e et 4e. La stupidité engendre la monstruosité. Et puis la génération d'aujourd'hui, c'est le résultat. Non, c'est la génération incarnation. C'est quand même extraordinaire que tellement a réussi à faire. Comme Dieu a fait, comme une espèce de manifestation de ce qu'il est à son image, de faire une humanité à son image, sa ressemblance, tous azimuts. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est quelque chose de nouveau, ça. On n'a jamais vu ça sur la terre. On n'a jamais vu ça sur la terre. Jamais on a vu ça. C'est ce que le pape a dit, voyons, aux évêques. Quand il est venu au Bourget, la première fois qu'il est venu en France, il a dit, voilà, c'est la première fois. L'humanité est complètement engloutie. On a une génération qui... Voilà, on ne parle pas à une génération humaine normale, mais à une génération qui est complètement engloutie dans la méta-tentation. C'est un premier encyclique qui le dit aussi, Redemptor Hominis. Le pape dit ça, il dit pas rien. Il dit, il avoue, il dit, on doit prendre conscience que avant c'était pas comme ça. Il a fallu 2-3 générations et une transformation totale. Il y a eu quelque chose, il y a vraiment un grand événement, de grands événements qui se. Voilà, donc on est à la bordure du sapiens de l'Apocalypse.
Oui.
Et c'est pour ça, quelque part, ça nous est difficile de on comprend les choses à l'envers, alors voilà, la transfiguration, ah ben, c'est pas maintenant, ça nous viendra plus tard, à la fin, quand on sera au ciel. C'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire, c'est pas ça la transfiguration. C'est le début. Bon, le Seigneur le sait, hein, de toute façon, qu'on peut comprendre les choses à l'envers. Mais c'est quand même une chose qui est, que je suis personnellement très touché, très voilà, je suis très reconnaissant, quoi, parce que le Seigneur a quand même laissé des lumières de l'Église. Le pape, Père Marido, des gens comme ça, Père Emmanuel, qui me font voir le fond de la vérité sur les lois naturelles, quoi. D'un être humain normal, et qu'on les retrouve, et qu'on peut les retrouver facilement, bien sûr, avec le fruit des sacrements. Je dis pas avec les sacrements, je dis avec le fruit des sacrements. Le fruit, c'est vraiment. Tu vois, que tu te maries à l'église, que ça y est, le sacrement de mariage, c'est gagné, tu es dans la transfiguration. Non, c'est le fruit, ça commence à s'apprendre. Il faut faire des actes pour sortir de la manière diabolique de l'esprit du monde, de vivre du couple. C'est sûr. On se jette dans le mariage comme on s'en jette dans un vide. Parce que là, parce qu'on est. Parce qu'on est. Ça est de castration. C'est horrible. C'est horrible, cette défiguration. Alors, tandis que la transfiguration montre que nous commençons par une métamorphose. D'ailleurs, le mot grec pour transfiguration, c'est métamorphose. La forme est, c'est une métamorphose, elle est renversée, elle se mue sans arrêt, métaphysiquement. C'est un autre. C'est plus vous deux, c'est de l'autre là. C'est une métamorphose. Alors il y a une autre chose, c'est que l'Église, elle nous donne. Bon, le récit que tu as lu dans Saint-Pierre, je crois, et puis le récit de Daniel, le récit du prophète Daniel, chapitre 7. Vraiment, ce prophète Daniel, oui, c'était quand même pas, il n'était pas tout seul, le prophète Daniel. Il y avait par exemple son frère, c'était trois, quatre dans la fournaise. Non, très bien, et il vivait tout simplement de la grâce normal d'Elohim, de l'union avec Dieu. Et il y avait les séquelles du péché originel. Bon, quand on les jette dans la fournaise de Babylone, le gars qui s'approche, les soldats qui s'approchent, ils sont morts brûlés. Eux, on les jette dans la fournaise, ils ont transformé la fournaise comme en fraîcheur délicieuse et lumineuse. Hein? Quand, après, on dit, oh, l'Ancien Testament, c'est nul. Heureusement qu'on est dans le Nouveau Testament. Il faudrait peut-être qu'on reprenne les choses à la base. Hein. Mmh. C'est pas rien. Et donc, dès le départ, il est nourri de la vérité sur l'homme, sur Dieu, sur l'union de Dieu et de l'homme, de l'union messianique de l'homme. Puis il a cette vision, chapitre 7. Où il voit donc ce que nous avons lu hein, déjà. Il voit un ancien, il est très très resplendissant de cette lumière très resplendissante, et ce blanc, plus blanc que la blancheur, la plus immaculée qui soit, et il est sur un trône, et il est du dedans de lui-même, et c'est des myriades, des myriades, des myriades qui du dedans de lui-même resplendissent, sont devant sa face, etc. Et voilà. Et... Enfin, c'est un ancien. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. L'Église, elle nous donne ce texte. Ben, c'est pas Jésus. Un ancien. L'ancien. Son trône était fait de flammes, de feu. Et ce vieillard prend place. Et des trônes sont disposés. Et rien que les cheveux de sa tête, sa contemplation, c'est comme de la laine chaude, immaculée. La laine, c'est beau, c'est ce qu'on donne, c'est ce qu'on prend à l'agneau, quoi, un mouton, un bambi. Elle est immaculée. Et plus blanche, plus immaculée que toute immaculation, tout, c'est vrai. Et son trône est fait des vives flammes du feu du Saint-Esprit. Et puis, avec des cercles de feu ardent, une ferveur d'amour éternel, quoi. Et les gens qui lisent ça disent, ah, c'est coup volant. Les ovnis, avec les ovnis, et les bonhommes verts. On a la preuve. Pour arriver à lire qu'il se couvre l'homme dans cette apparition, il faut vraiment être taré. Hein. Ah oui, ah bah oui. Ah, vous voyez. C'est le positivisme, tout est. C'est forcément des gens qui maîtrisent la technique, l'antimatière, tout ça. Voilà. Oui, les ovnis existaient déjà. Oui, parce qu'il n'y a que la science qui sauve. Est-ce que la science peut confirmer ce que tu dis? Non, ben c'est faux. Ah bon? Ouais, moi, je réponds. Est-ce que la science confirme ce que tu dis? Je dis oui. Je dis donc c'est faux. Tout ce que dit la science médicale, c'est faux. Tout. Tout ce que dit la science sur l'explication des lois cosmiques, c'est tout faux. Tout faux. Il n'y a rien qui soit vrai dans ce que dit la science. Par définition, il faut avoir fait beaucoup de métaphysique, de philosophie, pour savoir ce qu'on dit là est parfaitement irremplaçable. Tout ce que dit la science, c'est forcément faux. Il n'y a rien qui vient par induction. Tout vient par induction hypothético-déductive. Donc c'est tout imaginaire. Rien ce que dit la science qui nous vienne d'une intuition imaginaire. C'est l'hypothético-déductif. Sinon, tu ne fais pas de science. Voilà. Donc, vous voyez bien, il y a des ovnis là. Et c'est quoi cet ancien des jeunes? Non, mais c'est pour ça. Quoi. Et dans combien de milliers de bouquins on voit ça? Ils disent, ben voilà, ça y est. Mais oui, bien sûr, donc on sera emporté sur les nuées du ciel par des soucoupes volantes. C'est ça, après l'avertissement, on va être emporté par les nuées du ciel, soucoupes volantes, dans d'autres univers. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je ne dis pas que ça ne va pas se passer. Ça peut se passer, justement. Ceux qui ne veulent pas de Dieu vont se précipiter dans la lumière. Fausse des démons qui se mettent à leur niveau, au niveau de la stupidité, de leur bassesse matérielle, de leur matérialisme religieux. C'est une religion, quoi. C'est une religion de l'amour, de l'énergie, de l'harmonie, de l'unité, de l'anatma, tout ça, de la modéité, de la réalisation. Voilà, ils ont été jusqu'au bout de la réalisation bodhique de leur vie. C'est l'égoïsme transcendantal absolu dans la lumière. Ah, alors ils iront, hein. Dès qu'il y aura ces croix glorieuses sous forme de secours, ils iront. Pas besoin d'une bombe atomique, hein, ils iront avant. C'est possible. Je ne dis pas que c'est pas impossible. D'ailleurs, on les y prépare. Mais vous voyez, nous, on peut qu'on fasse attention. On préfère suivre le Saint-Père. Hein. Enfin, faites comme vous voulez, mais moi je préfère suivre le Saint-Père. Non, vous voulez faire comme. Allez-y. Continuez, macrobiotique, vas-y. Allez. Allez-y, vas-y. C'est Dieu qui contrôle tout. C'est l'homme normal qui contrôle tout. L'Eucharistie, c'est tout. Tu t'engloutis dans l'Eucharistie, crois-moi. Hein. C'est que voulant, elles pourront venir te chercher, elles ne te verront pas. Par contre, tu trouveras Dieu, tu trouveras la réalité du corps spirituel. Vous voyez, regardez, un fleuve de feu, alors en plus, tu vois, cette éternité, les cercles, ça veut dire tout simplement les cercles. Mais enfin, les cercles, c'est. Les cercles, ça veut dire c'est l'immensité, ça représente l'immensité de la lumière et son éternité, sa perfection vivante, entouré comme ça, le vieillard sur son trône, le vieillard était sur son trône. Attention, il était sur son trône. Et de là des fleurs, ouais. Des fleurs de feu qui jaillissaient du dedans de lui et de devant sa face, tout. Et des milliers et des milliers, et des myriades et des myriades étaient dedans lui. Devant sa face, debout. Et on ouvrit des livres. Et c'est très Jean Yohanan dans le fond eucharistique de Marie voit aussi ça dans l'Apocalypse. Il a vu pratiquement exactement la même chose. Il nous donne ça pour la transfiguration. Et puis elle nous dit aussi, ah, attention, c'est un commencement. Ah, oui. Et qu'est-ce que vous voyez, vous, à travers ça, hein? Je ne sais pas si vous avez lu l'Apocalypse, mais Saint Jean, il faut toujours comprendre les choses par la vision chrétienne, quoi. C'est mieux. Et nous voyons aussi à travers ça Saint Joseph, hein, le vieillard. Il y a un trône quand même. Dans le fond de la croix glorieuse, il y a quoi? Dans le fond de la croix, il y a cette rencontre prodigieuse de tous les livres ouverts. Saint Joseph, le Père, le sacrement du Père. Celui qui spire, vous voyez, inspiration, sève. Celui qui spire la substance incréée qui fait que la première personne de la Très Sainte Trinité est Dieu. Et le Fils de l'homme, c'est-à-dire l'âme humaine de Jésus déchirée, arrachée à son corps, descend et se présente. Tous les livres sont ouverts. Et c'est toute la gloire à ce moment-là qui resplendit dans cette rencontre prodigieuse entre les deux. Et pourquoi est-ce que ça produit 40 jours avant le resplendissement de Jésus sur le mont Tabor? Mais c'est à cause de Marie, parce que tu ne peux pas mettre Saint Joseph glorieux en Jésus glorieux sans la responsabilité. C'est lui qui est. C'est lui. C'est lui. C'est marqué là. De lui jaillissent. Il est la source. Il est principe. Il est le trône. Sa contemplation. Rien que ce détail, tout simplement, c'est comme de la laine immaculée. C'est-à-dire que sa contemplation à Saint-Joseph, c'est à partir du mystère de Marie, la brebis, la laine immaculée et l'agneau, les deux. Il resplendit avec l'unité indivisible de la co-rédemption de Marie et de l'hypostatique de Jésus. C'est ça qui fait sa contemplation, c'est ça qui l'a amené jusqu'au fond. Et c'est ça le fond de la croix glorieuse. C'est pour ça que le mystère de la transfiguration est immédiatement. Il y a une nécessité avec la croix glorieuse. C'est pour ça que l'Église le met à cette date-là. Ben, je ne vois pas pourquoi on continuerait à vivre de la foi chrétienne, l'Évangile, tout ça, sans savoir ce que l'Église dit quand même. Pour expliquer la doctrine sur le mystère de la foi. Et du coup, on le regarde, hein, c'est merveilleux, mais du coup, on le contemple, on s'endort le soir en disant oh, Seigneur, je voudrais être emporté de manière contemplative surnaturelle pour le voir dans mon horizon de demain, plutôt que de gesticuler comme un ventilateur. Et du coup, je reçois ça. Ça s'appelle la vie illuminative. Plutôt de rester toujours en commençant à ramer, à ramer, à ramer. Ah, c'est pas grave, hein, si on s'y met à l'âge de 60 ans, 70 ans. Après tout, hein, Abraham a commencé à 70 ans. Hein. On l'a appelé de sa terre lointaine. Il avait 70 ans, il a fallu attendre 20 ans, 19 ans de plus, pour qu'il commence à avoir la foi. 90 ans. Du coup, le gars, il a communié. Il a fallu encore attendre 9 ans pour qu'il y ait une première fécondité. Enfin, c'est pas foutu, même si les gens, ils ont 60, 50, 40 ans de vie débile. Ils sont en avance sur Abraham. Quelque part, on n'est pas dans le désespoir pourtant. C'est rien, si tu reprends quand tu veux, c'est toi qui décides. C'est pas Dieu qui décide, c'est toi. C'est quand tu veux. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de chouette dans cette histoire, qu'il fallait avoir l'avertissement. Parce que là, ça peut être un commencement pour un très grand nombre. Vous voyez ce que je veux dire? À condition qu'il soit éclairé. Parce que si tout de suite ils vont se dire, on va essayer de comprendre, et qu'ils se mettent dans les gnoses pour comprendre. Parce que malheureusement, à l'avertissement, les bouquins ne vont pas brûler, les bouquins faux. Sera complètement mise à nu un jour. Mais si ta volonté profonde est mauvaise, tu vas chercher ton bien là où ta mauvaise volonté veut aller le chercher. Tout le monde verra quand même, c'est l'Immaculée Conception qui compte, l'infaillibilité du Verbe de Dieu qui compte, bien sûr, les trois blanchards, évidemment. Mais il y aura toujours des possibilités à tirer quand même. dans les ovnis. Bien sûr que Saint-Joseph est là. Il y a une sponsorité avec Marie. Et Jésus, il vient de prendre ces trois-là. Il vient de prendre ses trois disciples. Ils viennent d'où? Ben, bizarre. Ils viennent pas de Nazareth, mais de la ville où Jésus a habité, avec Pierre d'ailleurs, de Saint-Pierre. Marie était là. Ils viennent de ressusciter la petite fille, la petite vierge de 12 ans. La Vierge de la synagogue, la Vierge d'Israël, m'a ressuscité en présence de ces trois. Puis tout de suite, il se retrouve avec ce mari. Il vénère sa mère. C'est là qu'il dit, il ne faut pas que la lumière soit cachée sous le boisseau. Il faut qu'elle resplendisse sur. Donc il dévoile le mystère de l'Immaculée Conception de Marie. Ah, ces trois disciples-là, secret de Marie, dévoilés. Et tout de suite après, du coup, il faut qu'il y ait une virginité nouvelle. Parce que il monte sur la montagne avec eux. C'est aussitôt, c'est le soir même, le lendemain, je crois. Aussitôt. Il y a un lien avec le mystère de Marie. C'est le sixième jour. Sixième jour après qu'il ait dit, voilà, certains d'entre vous ne verront pas, ne passeront pas sans avoir vu le Fils de l'homme avec toute sa gloire. Et ça, c'est le sixième jour, la création de l'homme et de la femme, de cette annonce, vous voyez. Donc, il faut vraiment être aveugle pour ne pas comprendre que le mystère de la transfiguration, c'est un mystère de Marie. D'ailleurs, le Saint-Père a fait le mystère lumineux, être au milieu, le mystère de la transfiguration. Pour que tout le monde sache que la transfiguration, c'est un mystère de Marie. C'est un mystère du rosaire. Donc c'est un mystère de Marie. Et c'est un mystère sponsal, si on lit la doctrine du Saint-Père aussi. Un mystère sponsal. Donc Saint-Joseph est quelque part là. Et en plus, l'Église te donne la vision d'Apocalypse, de Saint-Jean, ou, si tu préfères, de Daniel chapitre 7. On voit bien, quoi. Là, c'est l'âme, c'est vrai, c'est pareil, de Joseph. C'est l'âme de Jésus, c'est pareil, la croix glorieuse. Mais ils sont tellement, substantiellement, lumineusement, personnellement, surabondamment, éternellement lié au corps immaculé de Marie transféré, qui lui est vivant, que ça fait le fond du mystère de la transfiguration. Parce que tu vis d'un mystère quand tu es dans la grâce surnaturelle, que ça tienne par anticipation, par appropriation, par puissance. C'est pour ça que c'est à fond. Et alors, du coup, toute la force virginale, que rédemptrice de l'homme et de la femme, sont données à la nature humaine pour aller et traverser l'impossible, traverser de la croix. Tu peux bien sûr réparer le vide, le mal, l'horreur, la destruction, l'anéantissement de toutes choses à cause du péché, mais de traverser la haine de Lucifer lui-même, non, c'est... et d'y réprouver. La passion, la mort, l'agonie de Jésus va prendre tout ce que chaque être humain, tout ce que chaque être humain, y compris les réprouvés éternels de l'enfer. Pour leur faire miséricorde à tous. Ça ne veut pas dire qu'il va les enlever de l'enfer, puisqu'ils le veulent de l'enfer. Mais il va prendre sur lui tout ce qui est possible à supporter en enfer, humainement. Ils supporteront le châtiment qu'ils ont préféré, mais voilà, il y aura beaucoup. Le feu, le tartare, tout ce que tu veux, la peine des dames, ce qui est impossible, il l'a pris. C'est pour ça que les gens en enfer resteront en enfer, mais ils loueront le Seigneur. Ils le remercieront parce qu'ils verront bien. Parce qu'ils n'ont pas à souffrir à cause de Jésus, Rédempteur, de Marie et de Marie et de Joseph. Alors t'inquiète pas, ils diront voilà, on est respecté, d'accord, dans notre choix, dans la nation, tout. On est dans le tartare, c'est vrai, c'est pas drôle, mais ça reste horrible, mais ce n'est pas ce qui aurait pu être. Cette traversée-là, s'il n'y a pas la force, cette force inouïe de la transfiguration, on ne peut pas l'accueillir, l'assumer. Jésus-Marie, je n'ai pas porté ces souffrances-là ensemble. Ce que aucun, même pas un seul, n'aurait prouvé. Vous pourrez supporter une seule seconde. Nous sommes là pour porter les souffrances de nos ennemis à leur place, pour leur faire miséricorde. Même s'ils ne se convertissent pas, c'est pas le problème. On fait miséricorde à tout le monde autant qu'on peut. Et c'est la purification de la chair, c'est être dans une disposition au jour de l'avertissement, au jour du cinquième de l'Apocalypse, on est capable de porter de demander pardon à leur place, ils ne savent pas ce qu'ils font, de pardonner à leur place, de recevoir le pardon à leur place, même s'ils ne le font pas et s'ils ne suivent pas ce mouvement de porter les souffrances qui hantent. Qui en résultent à leur place, mais au moins il y a un temps de paix. Et c'est la volonté de Dieu de toute façon. Et voilà, il faut une force. Voilà. Alors cette force-là, qui est une force de co-rédemption, elle commence, elle est de nature une force de transfiguration. Il faut qu'on soit redevenu normal et en plus transformé dans le mariage spirituel de la grâce sanctifiante et en surabondance pour tout de la nature humaine. Voilà, et c'est ça l'état de transfiguration. Et on s'y plonge comme ça, on se plonge du coup dans le temps du cinquième saut et pour aller au sixième. Voilà, c'est pour ça que ça passe en dessous de l'Antéchrist. L'Antéchrist, il ne peut pas le voir, il est ailleurs, il ne peut pas le voir. C'est un chemin finalement qui n'est pas difficile, hein, qui est impossible pour ceux qui ne sont pas normaux, mais qui n'est pas difficile. Et les enfants nous montrent que ce n'est pas difficile. Les enfants nous montrent bien que c'est... Ça glisse tout seul dans l'encaissement d'un oui, qui dépasse tout, toutes les opacités, soi-disant invincibles du méchant. Hein. Voilà, mais... Pas du tout, puisque dans le principe, l'union hypostatique de Jésus, l'immaculée conception, dans le principe de la paternité de glorieuse de Saint-Joseph, ça, ça commence comme ça. Font que, voilà, on est recréé dans le monde nouveau, d'une vie selon la sagesse de Dieu, selon la sagesse du Papa, selon la sagesse du Père. C'est vrai que c'est pas difficile à comprendre, mais c'est pas de comprendre qu'il faut, c'est de l'actuer. Une fois qu'on a compris, c'est bien, mais après il faut l'actuer. C'est pour ça que souvent on dit dans le concret, les promesses sont faites, vous pouvez le faire, c'est pas totalement impossible, c'est pas, non seulement c'est vrai, moi j'ai... Tu dis les oraisons de Sainte-Brigitte chaque jour pendant un an, ça y est. Donc, plus... Est-ce qu'il y a quelque chose de plus facile que ça? C'est impossible, tu ne peux pas faire plus facile. Il faut vraiment être acharné contre Dieu pour dire non, trop difficile. Pour avoir 1000 euros, tu déploierais 100 fois plus d'efforts. C'est rien. Tu dis que les oraisons de Sainte-Brigitte, tu passes à travers toutes les plaies de Jésus. Toutes. Voilà, 15 fois 365, 5400, tu les passes toutes. Voilà, en faisant les oraisons de Sainte-Brigitte. C'est pour Dieu qui te protège dans un temps. Voilà. Pour que ça facilite 15 par jour, c'est pas plus. Pour que ce soit vraiment enfantin, quoi. Voilà. Et bien, si tu fais ça, non seulement tu apportes tous ceux qui tous ceux qui comptent pour toi, qui sont de ton sang, quoi. Mais en plus, tu es assuré d'être rentré dans la demeure de l'union parfaite. C'est-à-dire. Donc tu as tout. Ah oui, mais c'est dur hein, quand tu es dans le Carmel 40 ans. Là, un an. Et en plus, dans le Carmel, avec les purifications. Purification de la nuit, la sensibilité de la nuit, concupiscible de la nuit, l'irascible. Moi, j'ai subi 2 ans et demi de la nuit irascible. Je ne sais pas, je te dis pas, je ne souhaite à personne. C'est horrible. Et après, c'est la nuit de la mémoire, puis après, c'est la nuit de l'âme, puis après, c'est la nuit de l'esprit, puis après, c'est la nuit de la voix. Complètement, c'est pas. Non, tu fais juste 15, c'est tout. C'est là te promet. Alors du coup, oui, mais ces purifications n'ont pas lieu. Si, elles ont lieu. Elles ont lieu. Le Seigneur s'en débrouille. Quand tu dors, par exemple, ça a lieu. C'est vraiment la miséricorde pour les. Ceux qui sont l'incarnation de la faiblesse et de la paresse. Et bien, ils peuvent aboutir à l'union parfaite. Il ne faut pas traîner avec ça. Et du coup, tu obtiens, ça y est, tu sais que tu es assuré. Oui, on verra bien. J'ai le droit de me mettre en colère pendant 3 jours. Quand même, faudra voir. Est-ce que vous pouvez pas avoir un peu d'amour pour moi? C'est mon bien-aimé, tu peux pas l'écouter. Tu peux pas avoir un peu d'amour pour nous? Un petit peu, quoi. La grâce que milliardième d'une masse coopérante. Ce n'est pas une grande coopération, juste un milliardième de milliardième de milliardième de millimètre. Un commencement de coopération, pas plus. Oh non, c'est trop fatigant. Je préfère rester dans mes idéologies. Non, il ne faut pas faire ça. On s'approche de l'heure. L'heure est arrivée. Et tu fais ça. C'est pour ça que je dis toujours, mettez la peau. C'est vraiment. Hein, mettez la priorité absolue sur les raisons simples, et puis c'est tout. N'allez pas faire 800 milliards de dévotions, regardez les énergies, les coupures de liens, ça, tout ça, ça sert strictement à rien. Ça ne vous amènera pas à l'union parfaite. Ça vous enseigne de terminer. La raison prime, même ça, pas la messe du dimanche. Hein. Voilà. En plus, éternellement, tu es admis au sommet du sommet du sommet de la glorification de Dieu, c'est arabique. On ne sera pas dans des marches publiques, ou un chemin angélique, archangélique, ou des vertus glorieuses, etc., ou des roues, etc. Non, non. Là-haut. Éternellement, tu pourras glorifier Dieu éternellement. Attends, tu traînes la patte encore? Ça veut dire que ça ne t'intéresse pas. Oui, mais ça. Le jour de la transfiguration. La troisième leçon, c'est dire qu'il y a une différence quand même entre cette force native du paradis, de ce que nous sommes dans la grâce sanctifiante, dans le mariage spirituel, dans la vie normale, quoi. Et puis, la résurrection. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui disent, voilà, Jésus a voulu montrer ce que c'était que la résurrection. Être exact. Le corps de la résurrection et le mystère de la résurrection, le mystère de la transfiguration, c'est quand même pas la même chose. Les modalités, les propriétés, je sais pas, c'est dommage d'employer des mots comme ça, je sais bien, du corps de transfiguré ne sont pas de même nature que les modalités. Et les manifestations ou la révélation du corps spirituel de résurrection. Bien sûr, il y a, dans les deux cas, il y a impassibilité, luminosité, subtilité, agilité, comme l'explique saint Thomas d'Aquin. Très subtil. Donc, il traverse les portes du cénacle sans l'abîmer. Subtilité. C'est encore matériel. Tu vois, si tu prends ici un espace là-bas, dans notre univers, tu supposes simplement que tu fais traverser un autre espace de l'univers. Il y a tellement de milliards de kilomètres entre chaque planète qu'aucune ne se rencontre. Tu vois, pour traverser. Un corps peut traverser notre corps, et pourtant il est bien matériel sans l'abîmer. On sait scientifiquement que notre corps a des milliards d'espaces de vide pour des minuscules particules de matière entre elles. Mais elles sont en interaction, c'est vrai. La matière a plus de poids que vide, que l'espace intermédiaire. C'est la nature qui veut ça. On est une récapitulation dans notre corps. Donc c'est normal. Donc il y a une subtilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de matière. C'est exactement le contraire. Parce que la matière a sa place, c'est tout. Et s'adapte à l'autre, la lumière, l'amour, la lumière, tout ça. C'est adapté. Vous voyez ? Et Jésus, saint Augustin fait remarquer que quand il traverse les portes du cénacle à la résurrection, il n'abîme pas les portes du cénacle. et que si de la même manière il a traversé les portes du cénacle du corps de sa mère à Noël sans abîmer le corps de sa mère. Une lumière traverse une autre lumière. Pourquoi ? Parce que le corps de la mère et le corps de Jésus, comme l'explique saint Luc, d'un jour de Noël, sont dans un état de transfiguration, de transfulguration. Même les bergers sont transfulgurés dans leur cellule corporelle à la visite angélique. Mais ce qu'ils voient, c'est cette même transfulguration dans l'exaltation de... Ils voient non pas Jésus, ils voient Marie, c'est-à-dire en même temps Joseph, mais pas un mari. Ils voient Marie complètement transfigurée. Et simultanément Joseph transfiguré. Après part, ils étaient vraiment dans l'état de transfiguration d'un mariage normal, c'est tout. Dans le mariage normal, dans la grâce. Parce que tu ne conçois pas l'être humain sans la grâce. Hein. Les êtres humains en sponsalité sans la grâce, ça n'existe pas. Donc tu ne touches pas. On dit bien, le papa dit bien à sa fille, tu ne touches pas un type. Tu ne touches pas. Donc vous n'êtes pas dans la grâce sanctifiante. Tu ne touches pas. Même du bout des lèvres, tu ne touches pas. Voilà. Réservé à la grâce. Pas de sacrement. Tu gardes ta virginité jusqu'au jour du sacrement. Sinon, tu sais, tu risques de détruire toute ta vie de mariage si tu l'as broyée avant. Ah, heureusement qu'il y a l'oraison, hein, pour 9 mois d'oraison pour la récupération du corps spirituel normal, drôle. Heureusement. C'est pour ça qu'on a des gens qui veulent se marier. Voilà. On leur demande au moins 1 an de chasteté absolue. Non, ben, s'ils viennent me voir, en tout cas, c'est comme ça. Parce que je leur dis, Dieu et moi non plus, nous ne voulons pas bénir un monstre. Et on ne veut pas être responsable d'une monstruosité. Tu crois comme ça. Vous allez en plus donner des enfants à la terre comme ça. On ne peut pas faire ça. L'Église ne peut pas faire ça. Enfin, moi, je ne peux pas. Aller voir un curé qui est d'accord, mais pas moi. Moi, je veux suivre ce que Dieu demande et c'est tout. Allez vous marier chez Hollande. Donc la troisième leçon, c'est que la transfiguration, c'est quelque chose de normal dans une vie humaine normale, d'amour, de lumière, où la signification sponsale du corps va jusqu'au bout d'elle-même, dans la ferveur en Dieu. Et c'est pas soi tout seul, hein, dans l'au-delà de l'unité avec celui que Dieu a mis proche de nous. Hein, voilà, ça c'est normal. Mais le mystère de la résurrection, c'est autre chose. Quand le corps de Jésus, Saint Joseph, ressuscite, en même temps que le corps de Jésus qui ressuscite, puisqu'ils sont ressuscités en même temps, c'est quand même plus que la transfiguration, on voit bien. C'est autre chose. C'est en même temps une égarcie et une anastasie. C'est une résurrection qui absorbe toute matière de tous les temps de notre univers. Qui absorbe tout. Et en même temps, c'est une exercice, c'est une résurrection. Et en même temps, c'est une anastase. Et c'est le corps de l'homme ressuscité qui va au-delà de l'exercice et qui permet, comme récepteur à l'univers, de se déployer dans l'au-delà de lui-même. À l'intérieur de cette même résurrection jusqu'à la porte de la lumière de gloire. Donc c'est les mêmes propriétés, mais à un état tellement jamais rien tissé. Hein? Ça n'a plus rien à voir. Peut-être que la transfiguration, les quatre subtilités, agilités, peut-être, ce que Dieu nous donne au départ est comme une espèce de parabole, d'image, ressemblance de ce qui nous attend dans la résurrection, mais c'est une parabole, que le corps de résurrection, c'est tout à fait... C'est pour nous faire rentrer dans les processions de spiration agréée, quand même. C'est pas juste pour permettre qu'il y ait une vie de sainteté toute pure, du corps de l'âme et de l'esprit, dans l'amour et la lumière, ce naturel, dans le mariage spirituel, sur la terre et dans le monde de la... et dans le monde de la résurrection. Hein? La dormition, si vous préférez. Alors, on peut accepter quand même, parce qu'on voit dans la préface de la fête, vous allez voir, on pourrait dire, ben voilà, c'est une manifestation anticipée de la résurrection. Hein? De leçons hein, dans le mystère de la transfiguration, il y a beaucoup de leçons. Enfin, au moins retenir ces trois trames principales. Et c'est pas du tout impossible, justement, que le cinquième saut de l'Apocalypse nous fasse toucher quelque part quelque chose de ce mystère de la transfiguration. Hein? C'est pas du tout impossible. Toucher, parce qu'on va toucher quand même le Saint des Saints, la paternité, la dévasté de Dieu dans son trône, cette paternité-là, voilà, dans ce continuum qui s'ouvre à nous, pour que l'instant primordial et final nous redonne une liberté dans. Incarné dans l'échange, une capacité de désirer d'être membre vivant, incarné du corps vivant, le mystique vivant, de Jésus vivant et d'être un membre vivant en même temps de la Jérusalem immaculée, de la conception de Marie, le vivant, le vivant, notre corps vivant et que cette fécondité aussi du corps spirituel venu d'en haut petit à petit. À mesure de notre vie pour aller vers transfiguration du sixième sceau, vers la rédemption de l'agneau du sixième sceau, vers les noces de l'agneau. Donc il y a un lien forcément dans le mystère de la transfiguration avec le mystère de la croix glorieuse. Ça c'est évident. Hein. C'est évident. Et c'est notre vocation, je veux dire, si vraiment le mystère de la transfiguration a été manifesté devant Jean, Jacques, Élie et Moïse. C'est pour notre génération. C'est pas pour la génération de Sainte Bernadette. Quelque part, il y a quelque chose de je crois, de quelque chose de... C'est normal, parce que la plus grande des rédictions qui est la nôtre, c'est de se faire avoir comme ça par le démon, à ce poids, à tout mal correspond un don et un bien beaucoup plus grand. Faut être d'accord avec le bon Dieu, disons, voilà, c'est vrai. Faut acquiescer, faut dire oui. Et pas en gardant un petit non par derrière, là, disons, sur ce point-là, je garde mon truc, hein, au cas où. Au cas où ça ne marcherait pas, tu vois, un petit coup, là. Mais sinon, c'est un grand don qui nous est fait. 444, 555. Ça fait au total 999, hein, Saint-Joseph. L'avertissement 999, pour affronter 666. Dégagé. J'ai eu une distraction cette nuit. Je faisais des calculs cette nuit. Entre la mort du père Emmanuel de Montmorin et la mort du père Marido il y a 666 semaines. C'est terrible ce qui s'est passé. Dès qu'il n'y a plus le père Emmanuel. Tu vois, c'était plus dans le mystère de compassion. De l'enfance, quoi. Il va falloir vraiment qu'on approfondisse cette mission du père Emmanuel. Et je peux vous dire que c'est pas compliqué, hein. Mais c'est vrai que bon. Et puis, on ne triche pas. Il faut être disponible. Mais en dehors de ça, tout le reste, qu'est-ce que c'est agréable? Qu'est-ce que c'est drôle? Jour, on va plonger le corps originel de ces 770 milliards. Et il y a le corps de leur mère qui est quelque part, qui va être le tabernacle, dans le calice, dans le très précieux sang, s'engloutir chacun. Encore vivante. Ça, c'est extraordinaire. Qu'ils deviennent ainsi le calice. Où s'écoule l'amour éternel, vivant et délicieux du Père, pour qu'ils se disposent eux-mêmes à l'accueil du paraclet dans l'ouverture des temps. Cette consécration-là, hein, de Martha, Raphaël. Pour le sixième jour, c'est la sixième fois qu'on le fait. Pour qu'il y ait quelque chose de responsable dans leur ministère, à l'intérieur de l'Église militante, dans notre corps mystique vivant et entier, Jésus vivant et entier, qui est le nôtre du coup. Avec eux. Mais cette fois-ci, mystiquement, nous c'est mystiquement, ça peut être que, faut que ce soit physiquement, faut que ce soit mystiquement, on rejoindra corporellement, parce que ce sera possible pour nous, au cinquième saut d'Apocalypse, on les rejoindra, mais que ce soit tout de suite.